Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
À 6h40, nous vous retrouvons sur France Culture pour votre journal des idées. Et ce matin, on s'accroche un peu. Vous évoquez le stress, le burn-out, la fatigue, la démotivation, l'ennui. Autant de risques psychosociaux qui ont ouvert, Jacques, à un domaine de recherche fécond sur le terrain du travail et de l'entreprise.
Et oui, on parle même de fatigue studies dans le mensuel Sciences Humaines qui consacre un dossier à la motivation au travail. Philippe Zavieja, psychosociologue spécialiste de l'épuisement professionnel, explique que les phénomènes apparemment opposés du burn-out lié au stress et du bore-out lié à l'ennui de tâches dénuées de sens trouvent leur dénominateur commun dans la fatigue, que ce soit par sous-stimulation ou par surcharge. La fatigue étant un vécu éminemment personnel, le chercheur en santé au travail Amin Paritech plaide pour une approche subjective et qualitative contre la tentation rationaliste, voire positiviste, d'absolument tout quantifier sur un sujet pareil. D'autant que si les études sur le stress ou le burn-out sont nombreuses, elles ne sont pas facilement comparables, d'où l'intérêt de l'approche des studies anglo-saxonnes qui sont pluridisciplinaires. Dire le travail est le nom de la coopérative animée par Nathalie Binot et Patrice Bride, et dont l'objectif est de mettre en lumière le rapport subjectif que chacun entretient avec son travail. Pour eux, s'exprimer sur le travail aide à prendre conscience de ses motivations. Mais là est aussi le piège tendu par les nouveaux codes du management. Daniel Mercure analyse la montée en puissance de la DRH dans les entreprises. De services fonctionnels voués à l'embauche et à la rémunération, elle est devenue l'un des pivots de la planification stratégique, en particulier dans un contexte où celle-ci est commandée par les exigences de rendement des actionnaires. Flexibilité et polyvalence sont devenus les maîtres mots de la gestion en flux tendu. Le sociologue décrit le passage du modèle fordiste de l'agent mobilisé par des facteurs de motivation extrinsèques à la tâche, le salaire et les conditions de travail, à celui de l'acteur assigné qui développe un lien étroit entre le développement personnel et celui de l'organisation sur la base de l'alignement des valeurs personnelles à la mission de l'entreprise. S'il est vrai que certaines grandes entreprises dans le domaine des technologies avancées ou de la communication offrent à leurs salariés une contrepartie à la flexibilité en termes de rémunération différenciée, d'avantage socio-personnalisé, d'horaires et de localisation flexible pour concilier la relation travail-vie privée, on sait que cela peut se traduire par une suggestion renforcée et de nouvelles formes de contrôle très intrusives, dominées notamment par l'autorité froide des data control qui mesure les performances, la satisfaction du client, la mesure des coûts, le rendement, la qualité de service, les relations avec les collègues, l'évaluation des salariés à 360 degrés par les collègues, leurs supérieurs, les subordonnés et par soi-même. Des pratiques de mobilisation subjective au travail qui ont aussi pour effet de détourner chacun des visées d'action collective des syndicats. Dans le monde diplomatique, Alain Deneau éclaire la face obscure du new management. C'est en effet pour les partenaires subalternes l'injonction permanente à atteindre des objectifs irréalistes, développer des méthodes de vente dégradantes, se donner des formations d'appoint, rivaliser pour se caser dans de nouveaux organigrammes, acquérir de nouvelles compétences sous peine d'être laissé sur le carreau. Fin de citation. L'auteur de Gouvernance, le management totalitaire, revient sur l'affaire France Télécom lors de sa privatisation avec les suicides de dizaines d'employés qui valent aujourd'hui à ses dirigeants de l'époque de comparaître devant la justice pour harcèlement moral. Le petit chef déviant et toxique, sniper des ressources humaines, nommé par eux pour mettre en œuvre la méthode du ranking forcé, s'est depuis lors confié à des journalistes. Son métier consistait à pousser systématiquement vers la porte un certain pourcentage de son personnel jugé moins efficace. Dans le jargon du new management, ça s'appelle revitaliser. Concrètement, cela revient à pulvériser la conscience du salarié pour le réduire strictement à une série d'organes, d'aptitudes, de fonctions, de rendements. Conclusion, les salariés doivent désormais s'investir positivement dans leur travail. L'autorité ne se satisfait plus qu'ils se laissent enfermer dans des paramètres coercitifs. Ils doivent les épouser frénétiquement et en faire authentiquement un objet de désir. Dans son enquête sur l'évaluation dans l'entreprise, publiée chez RS sous le titre « Le travail au-delà de l'évaluation », Damien Collard étudie les cas des personnels au contact du public à la SNCF dans une préfecture, ou encore le labyrinthe de l'évaluation des enseignants-chercheurs entre déni du travail et imposition de normes de service souvent absurdes. C'est la dissolution du salarié dans sa conscience de bien faire qui semble programmée.